vous êtes bien dans l'émission Mission Verte sur EDFM Radio et nous retrouvons Laurent Hugueli. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de nature et surtout d'un ouvrage qui s'appelle Manifeste paradisiaque avec un sous-titre assez formidable, Jardinage, permaculture et spiritualité. C'est paru aux éditions MAMA. Alors avant d'évoquer cet ouvrage, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler quel est votre parcours? Vous avez déjà écrit, pas seulement sur la nature, le jardin, mais vous êtes surtout et beaucoup un passionné.
Oui, ben je suis surtout connu pour mon travail en fait dans le domaine de la spiritualité. Je suis un spécialiste des cultures traditionnelles et également des religions orientales comme le bouddhisme. Et mes livres précédents étaient des livres qui traitaient de ces sujets. Et avec Manifeste paradisiaque, j'ai souhaité me faire plaisir et évoquer une de mes grandes passions. Et surtout en cette période particulière que nous sommes en train de vivre, je trouve que c'est important de parler de jardinage et de nature et de se redonner un peu d'élan. Donc pour moi, c'est un livre un peu particulier, effectivement, sur mon parcours, qui est plutôt un parcours, je dirais, de passionné, de spiritualité.
Et dans cet ouvrage, particulièrement Manifeste paradisiaque, qui est vraiment destiné à tous, hein, qu'on soit amateur, éclairé ou novice, hein, sur le jardinage, sur la culture d'amateur, vous nous livrez des propositions pour faire de ce coin de verdure, que ce soit sur notre terrasse, dans un petit carré de jardin, un endroit où on va se retrouver soi-même et puis produire et se reconnecter à la nature.
Oui, exactement. En fait, l'idée m'est venue le jour où j'ai découvert, je suis passionné d'étymologie également,
oui.
En fait que le mot paradis et le mot jardin étaient historiquement reliés. Parce que paradis, ça signifie jardin en perse, et ça signifie également jardin en latin avec paradisus. Et je me suis dit que, en fait, nos jardins, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient d'immenses terrains à la campagne, ou même le jardin sur le balcon, ou même les graines germées à la cuisine, dans un immeuble, ce sont des petits coins de paradis. Et ces petits coins de paradis nous maintiennent en contact avec le vivant. Et je pense que le vivant, c'est essentiel, parce que nous sommes vivants également. Et que ce contact, c'est quelque chose qui peut nous faire prendre conscience aussi que les solutions aux grandes transitions que nous sommes en train de vivre en ce moment, elles sont également dans le jardinage. Et que le jardinage apporte beaucoup de réponses pratiques, mais également philosophiques ou spirituelles aux grandes questions qui se posent en ce moment. Ouais.
Et d'ailleurs, vous renversez un peu les préjugés ou les idées reçues sur le jardinage. Vous rappelez à travers différentes propositions que c'est pas forcément pénible, hein, de travailler la terre. Il suffit juste de savoir l'utiliser avec sagesse et puis avec bon sens. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure de vos propositions. Alors justement, comment est construit votre ouvrage? Vous avez choisi de suivre les saisons.
Exactement, oui. En fait, je l'ai écrit au jardin, c'est-à-dire que je jardinais le matin pendant toute l'année. En fait, c'était en 2020-2021, sur une saison et demie que j'ai écrit ce livre. Et chaque jour, j'allais me connecter à une plante ou à un animal que j'observais dans mon jardin. Donc toutes les propositions, les 36 chapitres du manifeste sont liés à des choses que j'ai observées, en fait, pendant cette période de jardinage assez intense, quoi.
Oui, ça peut être un légume, un animal, un arbre, une plante. À chaque fois, c'est relié, effectivement, un chapitre à cela. Donc, par exemple, le premier, pour être très précis, le premier paradigme, où vous expliquez le jardin, c'est le futur. Le premier, c'est la carotte. Donc, vous nous expliquez comment cet élément du jardin, c'est aussi, là encore, une racine, ça nous rappelle toujours l'étymologie des mots, tout ça nous ramène à l'essentiel.
Exactement, oui. Alors la carotte, j'ai une histoire spéciale avec la carotte, oui. C'est pour ça que je l'ai mise en premier. Donc il n'y a pas de hasard dans le livre, tout a été pensé. Parce qu'il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé à vraiment jardiner pour me nourrir aussi, pour être en suffisance, enfin plus ou moins en autosuffisance, c'était à l'époque, je vivais dans les Pyrénées avec ma compagne, nous avions un assez grand jardin. Mon but, c'était de réussir mes carottes. Voilà, pour moi, la réussite des carottes, c'était un petit peu le saint graal du jardinier, parce que c'est une plante qui est, comment dire, assez banale, qu'on peut acheter comme ça au marché, mais réussir la culture de la carotte, qui demande une terre assez sablonneuse, etc., c'était pour moi tout un processus, et je l'ai mise en premier parce que le jardin, c'est le futur, et réussir sa carotte, c'était aussi pour moi, ça me fait rire quand j'en parle,
oui.
C'était aussi pour moi quelque chose d'important.
Parce que c'était compliqué, votre première tentative.
Oui, parce que c'est une culture, la carotte, on doit être très attentif à ce qu'on fait au début, et elle demande beaucoup d'humidité, etc. Et comme vous l'avez dit, la notion d'enracinement, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par l'enracinement, on commence par vraiment se rapprocher de la terre, et étant donné que c'est une racine, il y a cette notion justement de retourner à l'intérieur de la terre, de comprendre ce qui s'y passe.
Alors, de la même manière que votre démarche, hein, vous êtes aussi inspiré de d'autres jardiniers, d'autres amoureux de la nature. Vous le rappelez au fur et à mesure de la lecture, il y a vraiment des hommes et des femmes, hein, qui vous ont inspiré, que vous avez même rencontré.
Oui, absolument. Alors, j'adore rendre hommage, dans tous mes livres, je rends hommage aux personnes qui m'inspirent. Je trouve que c'est très important de maintenir la continuité de la mémoire. En fait, c'est ce que j'appelle la mémoire. On est dans une culture où on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui nous inspirent, qu'il y a des pionniers, et c'est pour moi toujours l'occasion de les remercier. Et notamment Yves Guillen, je parle de Yves Guillen à la fin du livre, qui est en fait un jardinier exceptionnel qui vit en Bretagne, enfin en Sud-Bretagne, en Loire-Atlantique exactement, et qui vit pas très loin de chez ma compagne Angéline, et nous sommes allés lui rendre visite, c'était en 2011, et pour moi ça a été une révélation, parce que c'est vraiment un des seuls jardiniers, je dirais, qui vit totalement en autarcie, totalement en indépendance. Et le fait de passer une journée avec lui et de discuter avec lui, ça a été un déclic pour moi de me dire je vais aller un petit peu plus loin dans ma pratique permaculturelle, dans ma pratique du jardinage, etc. Et donc effectivement, il y a une série d'auteurs, une série de femmes et d'hommes qui m'ont inspiré et que je cite dans le livre parce que c'est important de se souvenir que ces personnes-là ont apporté énormément. Et notamment dans cette facilité que vous mentionniez tout à l'heure, le fait que le jardinage soit devenu plus facile, plus accessible aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là aussi.
Oui, parce que on a tendance à penser que ce jardiner, c'est avoir des courbatures à la fin de la journée, avoir des outils parfois lourds. Or, d'après vos conseils, hein, finalement, normalement, avec nos 10 doigts, si on a bien nourri la terre, si on s'en est bien occupé, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de difficultés à faire bouger cet humus, cette terre, parce qu'elle est riche et qu'elle est meuble.
Exactement. Et c'est un aspect permaculturel, justement, du jardinage. C'est-à-dire qu'on commence... Les premières années sont toujours les plus difficiles, entre guillemets, parce qu'on doit... On doit en fait construire son terrain. Et là, effectivement, moi aussi, je sors la pelle et la pioche de temps en temps. Je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai déménagé plusieurs fois et créé plusieurs jardins. Mais avec le temps, en fait, plus on nourrit la terre et plus on prend soin, en fait, de la nature environnante, plus le rapport devient facile. Et c'est Jean-Marie Lespinasse, qui est également un de mes maîtres à penser au jardinage, qui est une personne que j'admire beaucoup, qui a écrit un livre, Le Jardin Naturel, dans lequel il explique que lui, il ne jardine qu'avec ses mains ou avec une fourchette et une cuillère, quoi. C'est-à-dire que sa terre est devenue tellement riche et tellement meuble et tellement pleine d'humus qu'il peut se permettre de se passer des outils lourds et compliqués. Et le fait de se souvenir de ça, d'avoir cette possibilité de faciliter en fait le travail, ça peut permettre peut-être aussi de se donner un petit peu plus de motivation pour se dire « Ok, une fois les premières années passées, ce sera plus facile ensuite. » Et ça devient un vrai plaisir, ouais, tous les jours.
Alors, il y a aussi un mot que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, il y en a beaucoup, hein, mais celui-ci particulièrement après cette période de Covid, c'est le mot résilience. On l'utilise un peu à tout va, et dans votre ouvrage, j'ai trouvé très beau. Vous dites « La résilience se cultivera au jardin, réjouissons-nous-en ». Car, page 166, vous parlez d'un épisode d'été orageux qui a provoqué évidemment un épisode de grêle. Et là, on se dit, quand on a un potager qui nous a pris beaucoup de temps, que tout est perdu. Or, non.
Oui, alors c'était l'été 2020, justement, alors que j'étais en train d'écrire le manifeste. Et la grêle, en une heure, a ravagé, en fait, des mois et des mois d'attention. Et j'avais bien réussi mes semis. Et j'étais très fier de moi cette année-là. Et en fait, quelques semaines, même quelques jours après cette catastrophe, enfin, c'est une catastrophe du point de vue du jardinier, bien sûr. Oui. Ben, en fait, les plantes ont recommencer à pousser, notamment les topinambours, qui sont des plantes que je trouve assez merveilleuses, parce que c'est vraiment des tout-terrains, et quoi qu'il arrive, elles finissent par repousser quand même. Et cette résilience, elle est dans le végétal. C'est-à-dire que, c'est ce que disent tous les grands spécialistes de la permaculture, la forêt en particulier, et le végétal en général, ce sont les maîtres de la résilience, parce que la nature, sous sa forme végétale, nous montre qu'elle peut toujours, en fait, se remettre à fonctionner après une catastrophe, après un événement brutal. Et je pense que c'est aussi un message d'espoir, c'est-à-dire que la verdure revient toujours, hein, donc la vie revient toujours, et les plantes sont très fortes pour ça, hein. C'est un message qui est très fort, que nous communiquent les plantes tous les jours, hein.
Alors aussi, ce qu'on apprend beaucoup dans votre ouvrage, c'est au niveau donc de la permaculture, c'est ce que vous appelez le biomax, je vais arriver, c'est l'acronyme de biodiversité maximale, car on le comprend, hein, à travers les pionniers de la permaculture que vous citez, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est la diversité qui réduit la vulnérabilité. Ça aussi, c'est très important quand on pense à nos agriculteurs qui font souvent de la monoculture.
Oui, la monoculture, c'est une invention de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que ce sont des terrains immenses qui sont traités, en fait, parce que les plantes en monoculture, lorsqu'il n'y a qu'une variété ou qu'une espèce qui est cultivée au même endroit, en fait, les ravageurs se font un plaisir de se démultiplier. Si vous ne mettez qu'une seule variété de maïs ou qu'une seule variété de pommes de terre sur des hectares et des hectares, il suffit qu'un insecte ou qu'un ravageur vienne, en fait, se nourrir et toute la culture, voilà. Donc, on a dû inventer des pesticides, des herbicides et toutes ces choses horribles, en fait, pour contrer, en fait, cette espèce de manie de faire les choses d'une manière mono, quoi, la monoculture. Et la biodiversité, le biomax, oui, c'est le super-héros hein, dans le livre. Mmh. Biomax, c'est le retour de la biodiversité maximale, c'est-à-dire que lorsqu'on mélange les plantes, lorsqu'on mélange les essences d'arbres, etc., mais en fait, il y a une espèce d'harmonie qui se crée, comme dans une jungle, c'est-à-dire que les plantes deviennent beaucoup plus résistantes aux agressions extérieures parce qu'elles se soutiennent les unes les autres, et il y a même certaines plantes qui cachent les autres, etc. Donc oui, la monoculture, c'est un gros problème systémique en agriculture. On en a peut-être, enfin, on a cru en avoir besoin pendant des années parce que c'est pour faire du rendement, c'est pour faire du business, en fait. Mais à quel prix? C'est-à-dire, le prix, c'est la pollution. Tandis que dès le moment où on commence à vraiment mélanger les choses et à ramener, en fait, une forme de diversité dans le jardin ou dans la culture, ben, on a besoin de beaucoup moins d'intrants ou de produits qui viennent de l'extérieur.
D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous évoquez aussi votre expérience sur 2011 dans l'épisode de la grenouille verte où vous expliquez que comme vous étiez sur un environnement très très stérile suite à une agriculture intensive, c'était compliqué de faire pousser et suite à une de vos propositions, sont revenues les fameuses grenouilles, ces auxiliaires du jardin qui font dire hein, que la nature et la biodiversité sont de retour.
Oui, absolument. Alors j'ai beaucoup déménagé, ce qui fait que j'ai eu la chance de vivre dans différentes régions et dans différents contextes, également entouré d'agriculture intensive et polluante. Et comme vous le dites, en 2011, avec ma compagne Angéline, nous vivions dans une région qui était vraiment dévastée, c'est-à-dire qu'il n'y avait presque plus d'oiseaux. Enfin, c'est impressionnant, certaines régions quand même, de voir à quel point c'est dévasté. Et le fait de se retrouver là, c'était un peu déprimant. Et c'est Angéline, comme je le raconte dans le livre, qui m'a poussé à faire de la permaculture et à m'intéresser à pailler mes cultures, à mettre une couche de paille, etc. J'étais pas très motivé au départ. Hein. J'étais un petit peu un jardinier de la vieille école. Et en fait, ça a fonctionné merveilleusement bien. Et en plus, les batraciens, les grenouilles qui sont des marqueurs de la biodiversité sont revenus. C'est-à-dire qu'il y avait des grenouilles qui étaient directement installées dans le paillis de nos tomates. Et pour moi, c'est un symbole magnifique, quoi, du retour de cette vie, même dans une région dévastée, en fait.
Oui, et puis on donne aussi vous nous donnez aussi des conseils autour du lierre que l'on dit un peu un indésirable du jardin parce qu'on a tendance à penser qu'il recouvre tout et pas détruit, mais enfin empêche le reste de pousser. Vous nous expliquez à travers une anecdote là encore que c'est pas tout à fait vrai. Vous dites aussi votre amour pour les arbres à travers là encore un épisode où vous avez regretté certaines coupes. Alors évidemment on pense en ce moment à nos bois qui sont coupés à droite à gauche par les industries forestières. Là encore, hein, vous nous donnez de jolies pistes. Puis j'aime aussi la 36e proposition. Je vais laisser évidemment nos amis auditeurs la découvrir. C'est autour de l'être humain. Et c'est aussi formidablement bien amené. C'est-à-dire que ça nous fait réfléchir hein, sur notre place hein, sur Terre et qu'on n'est pas tout seul. Donc il va falloir qu'on reprenne justement cette place sur cette planète, sur cette Gaïa, afin de qu'on puisse y rester le plus longtemps possible. Alors ces 36 propositions, c'est dans votre manifeste paradisiaque sorti aux éditions Mama. On peut aussi vous suivre à travers une chaîne YouTube. On peut d'ailleurs y retrouver votre compagne Angéline qui participe beaucoup hein, dans cet ouvrage.
Oui, oui. Alors ça fait plusieurs ouvrages que Angéline a étudié aux Beaux-Arts, elle est illustratrice. Et en fait, elle fait des dessins d'animaux et de plantes, justement, dans la plupart de mes livres. Et c'est un bonheur de travailler ensemble. Parce que c'est aussi une manière pour nous d'honorer la nature qui nous environne et qui nous fait sourire tous les jours.
Oui, et que le jardin, la permaculture, c'est un travail qui n'est pas solitaire. Hein. C'est vraiment un travail qu'on peut faire à plusieurs. C'est une sociabilisation. Hein. On rencontre d'autres jardiniers, on partage les graines, on partage les plants. C'est aussi une manière de se retrouver en communauté.
Oui, tout à fait. C'est cet aspect multidimensionnel du jardinage, c'est-à-dire que ce sont des solutions d'alimentation, des solutions environnementales, mais également sociales. Moi, je se retrouver entre jardiniers passionnés, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir et ça crée du lien et on se retrouve sur des choses vraiment qui existent, c'est-à-dire qu'on parle de la terre, on peut s'échanger des légumes, on peut s'échanger des graines, enfin, il y a un côté vraiment, je dirais, assez, c'est le retour à un rapport avec les autres êtres humains qui est sain et qui est lié à la nature, et je trouve ça très beau, ouais, effectivement.
Et plein de bon sens, qu'on a tendance à perdre, notamment, vous vous rappeliez, avec les fameuses applications pour jardiner, comme si on avait besoin qu'un ordinateur ou qu'une une intelligence artificielle venue de l'autre bout des États-Unis nous explique quand arroser et quoi mettre dans notre pot. C'est formidable. Alors, je rappelle, donc vous êtes l'auteur de ce manifeste paradisiaque à retrouver aux éditions Mama. Vous êtes aussi, donc avec Angeline Bichon, sur votre chaîne YouTube Permaculturellement Vôtre et sur un site internet outremonde.org, parce que vous proposez beaucoup de choses, des conseils évidemment, mais aussi vous nous montrez votre quotidien d'amoureux du jardin, d'amoureux de la spiritualité et du bon sens qui nous manque cruellement en ce moment et dont on a grand besoin, car comme le dit la manchette de votre ouvrage, le jardin c'est le futur. Et ô combien vous avez raison. Et comme dit votre ami Blaise Leclerc dans la préface, que j'ai beaucoup aimé, c'est que peut-être notre réseau sera si dense que nous pourrons aller d'un jardin paradis à l'autre en moins d'une heure de marche. Et c'est vraiment ça. Votre ouvrage, c'est se retrouver comme une autre époque. On dit toujours que c'était mieux avant. Mais est-ce que, d'une certaine manière, vivre aujourd'hui, c'est aussi se rappeler des bonnes choses du passé pour les générations à venir?
Et plus il y aura de jardins paradisiaques, plus ce sera le paradis sur Terre, effectivement.
Et alors, on invite nos amis auditeurs à découvrir votre manifeste paradisiaque, jardinage, permaculture et spiritualité. Il en est question parce que finalement, vous le rappelez aussi hein, en fil rouge, lorsqu'on est dans la nature, on est déconnecté dans le sens, on est loin des problèmes bassement quotidiens, on est reconnecté à le vrai. Le vrai, c'est-à-dire l'air, l'eau, ce qui nous permet de vivre loin des problèmes de l'actualité internationale ou du quotidien bête et méchant. Là, on est à l'essentiel. Et c'est ce qu'on découvre dans votre ouvrage. C'est ce qu'on peut retrouver aussi sur vos chaînes et YouTube et sur votre site internet. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses hein, pour ce printemps qui arrive. J'imagine que vous êtes très occupé.
Oui, je prévois de planter des asperges. Alors là, c'est encore l'étape plus loin. Après la carotte, l'asperge, alors là, c'est le super graal. Hein. Donc c'est un petit peu mon programme de ces prochains jours, les asperges.
Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès. Puis on suivra ça, évidemment, sur votre chaîne YouTube. Et on verra si vous avez eu, là encore, la main verte. Et grâce aussi à votre compagne, Angeline Bichon, qui a fait les illustrations hein, de cet ouvrage. Merci encore à vous, mamaedition.com, pour tout savoir sur ce manifeste paradisiaque. À très bientôt, Laurent Hugueli. Au revoir.